Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et comme chaque jour pour vous parler de football et pour évoquer aujourd'hui le PSG, le Paris Saint-Germain, en finale de la Coupe de France. Les Parisiens n'ont pas laissé passer leur qualification hier pour tenter de remporter une cinquième coupe consécutive. Facile vainqueur de Nantes, ils retrouveront donc Rennes. Marco Verratti a marqué, Mbappé aussi. Mais est-il rompu à l'exercice du pénalty, Mbappé? Même s'il n'est pas encore un E.T., un extraterrestre de la planète football, Kylian Mbappé pourrait égaler un nouveau record, un record d'ailleurs détenu par Carlos Bianchi. Bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour, comment allez-vous?
Ne maltraitez pas le micro s'il vous plaît, l'émission n'a pas commencé.
C'est Radio France qui fait du chantier.
Radio France, non, c'est RFI ici. Bonjour Carlos.
Bonjour, bonjour.
N'est pas prophète qui veut, même en son pays ou en son club. Zinedine Zidane n'a pu empêcher son équipe de perdre à Valence. Première défaite depuis le retour de Zizou. Mauvais présage ou anecdotique? Quand un Messi s'interroge, la Pulga de Barcelone, capitaine de la sélection argentine, se demande pourquoi il est si critiqué en son pays. Un choix du cœur auquel il se tient pourtant et se tiendra encore malgré les critiques. Tout beau, tout neuf, mais pas tombé du ciel, le stade de Tottenham, le White Hart Lane, nouvelle structure, a coûté 1 milliard d'euros au club londonien. La nouvelle enceinte plombera-t-elle les moyens et les ambitions de l'équipe de Pochettino? Eh bien, une question qu'on vous posera, Bruno Constant, bonjour.
Avec plaisir, bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Dominique Sévrac aujourd'hui,
bonjour
Dominique.
Bonjour à tous, bonjour.
Vous nous répondrez à toutes les questions, j'espère.
Bien sûr.
Et puis Eric Mamrut, autre Argentin dans l'antre de Radio Foot International, bonjour Eric.
Hola.
Hola.
Bonjour à tous.
Buenas tardes. Bonjour à tous, donc, et Radio Foot, c'est parti.
Marco Verratti. Oh, c'est Marco Verratti qui ouvre le score. Pour les Parisiens, on a parlé, Marco Verratti, qui débloque cette rencontre.
Penalty.
Allez, c'est dedans. Cette fois-ci, les Parisiens ont bien deux buts d'avance, les Parisiens. Qui entrevoit une nouvelle finale de Coupe de France. 2-0. Mbappé, le petit ballon pour Marco Verratti. Le contrôle d'abord, Daniel Alves. Oh, le petit lob. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est un petit bonbon, voilà. Délicieux.
Et la finale ne leur a pas échappé comme chaque année depuis 2015. La Coupe de France se disputera donc avec le PSG. Après les Rennais, ce sont donc les Parisiens qui ont obtenu leur ticket pour la finale au Parc des Princes face à Nantes. Une cinquième donc finale consécutive. C'est le même record que Lille. Lille avait fait autant en son temps, on va dire, hein, parce que c'était un peu dans des temps anciens. Un score, en tout cas, sans appel, 3-0. Un match à rebondissement, car à la mi-temps, il n'y avait que 1-0. Mais le premier but des Parisiens a été marqué par Marco Verratti, le premier de la saison sous les couleurs du PSG pour le jeune Italien. Mais juste une semaine, justement, après avoir marqué sous les couleurs de la Nazionale, et le petit hibou, chouchou du parc, a eu droit à une ovation spéciale.
C'est suffisamment rare pour que je prenne mon temps. Ouverture du score pour Paris par le numéro 6. Marco ! Marco ! Marco !
Marco Verratti, le petit hibou. C'était la première fois de la saison sous le maillot du PSG qui marquait, mais ça lui est déjà arrivé avant.
Oui, même si évidemment c'est pas Mbappé, hein, c'est pas sa spécialité, c'est pas ce qu'on lui demande forcément de faire. Il en a marqué 14 tout au long de sa carrière, Marco Verratti, en comptant les clubs et la sélection. 14 buts, 9 sous le maillot du Paris Saint-Germain qu'il porte depuis 2012, et son record dans une saison avec le PSG, c'est 3 buts marqués. C'était lors des saisons 2014-2015 et 2016-2017. Et là, en fait, on célèbre ça parce que ça faisait quand même près d'un an et demi qu'il n'avait pas marqué avec le Paris Saint-Germain. Là, vous en parliez, il avait marqué avec la Nationale et contre le Liechtenstein la semaine dernière. 2 buts en 3 rencontres. Et bien, c'était après une série de 58 matchs sans marquer. Donc, c'est ça qui est un petit peu exceptionnel.
Alors c'est vrai que c'est pas sa spécialité, mais écoutons Thomas Tuchel, parce que finalement, il est pas mécontent d'avoir trouvé un nouveau buteur dans son équipe.
Je suis très heureux parce que Marco a mérité de marquer, et normalement il est un gars qui cherche toujours une passe pour faire un cadeau pour son collègue. Et pour ça, quelquefois, il doit être un peu plus égoïste.
Il doit être plus égoïste. Faut-il théoriquement être égoïste? C'est un défaut, Dominique.
En tout cas, c'était le défaut, Annie, de Marco Verratti qui marque jamais.
C'est un défaut à l'envers, quoi. C'est-à-dire.
C'est pour un milieu de son registre. On peut le comparer, en tout cas, dans la catégorie des milieux de Modric, Kroos. Vous voyez, ces joueurs-là. Et normalement, c'est des joueurs qui mettent 5 à 10 buts par saison. Même Rabiot, qui joue plus au Paris Saint-Germain, met beaucoup plus de buts. Il a une bonne frappe. Il a un bon jeu de tête. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier but de Marco Verratti au PSG, c'est un but de la tête contre Ter Stegen, qui aujourd'hui est on peut considérer le meilleur gardien du monde. Donc à l'époque, c'était marrant parce que le petit hibou, il est vraiment petit, Marco Verratti. Marqué de la tête, c'est quand même assez étonnant de sa part. Donc peut-être qu'il y a eu un déclic. Alors est-ce que c'est Mancini? Est-ce que c'est à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est en sélection? Quelqu'un lui a dit, parce que je sais que Laurent Blanc lui disait, je sais qu'Unai Emery lui disait, je sais que Carlo Ancelotti avait commencé pas trop fort parce que il y avait d'autres défauts à corriger à cette époque-là. Et puis on voit qu'à chaque fois il préfère la passe et la bonne passe plutôt que le tir. C'est quelqu'un qui s'accomplit dans le registre de servir les autres plutôt que de se servir lui-même. Alors c'est magnifique parce que le football c'est aussi plein d'offrandes et c'est un sport collectif. Mais c'est pas normal qu'un garçon de sa dimension, il a 26 ans, c'est un jeune vieux. Du football ne puisse pas marquer 5 à 10 buts par saison quoi. Et le but contre Liechtenstein l'Italie est magnifique, donc ça veut dire qu'il sait faire.
Carlos, c'est pas réservé au buteur de marquer quand vous êtes vous entraîneur, vous dites à tout le monde de tenter sa chance.
Annie, c'est très important d'avoir des milieux de terrain qui marquent des buts. Il y a des milieux de terrain qui te sauvent la mise, parce que tout le monde on attend des attaquants. Mais un milieu de terrain qui te marque une demi-douzaine de buts par an, c'est comme en arrière central ou en arrière aile qui te marque des buts. Ces 3-4 petits buts qu'eux ils marquent sont des victoires importantes la plupart. C'est pour ça, mais Verratti n'a pas la... Parce que c'est pas une question de physique. Parce que quand il y a un débordement de la droite ou de la gauche, il peut arriver derrière Mbappé tranquillement parce que Paris peut attaquer à 10, ils vont pas l'attaquer. Alors c'est pour ça que je comprends pas que milieu de terrain... Comme lui, il l'a dit... Et Rabiot, c'est quelqu'un qui arrivait toujours, il marquait beaucoup de buts. Ah bon, il avait de l'ambition pour marquer des buts. Verratti n'a pas l'ambition.
Bruno?
Ouais, c'est peut-être le petit truc qui lui manquait encore. En tout cas, pour apporter davantage à son équipe. Effectivement, comme disait Carlos, les milieux de terrain, c'est important. Tous ces buts qui viennent du milieu de terrain sont très importants. Ils libèrent des espaces.
Ils sont plus inattendus pour les défenseurs.
Ils sont plus inattendus.
C'est ça
et puis c'est surtout, moi, je me souviens que de Frank Lampard, par exemple, à Chelsea, qui marquait en moyenne 10 à 15 buts par saison. Et bien souvent au-dessus de 15 buts.
Et Gérard aussi.
Gérard aussi marquait énormément. Lampard. Après, c'est des profils vraiment différents. Moi, je le rapproche davantage peut-être à Xavi au Barça. Et Xavi au Barça, il marquait très peu de buts. Entre 3, 4, 5, 6 buts maximum. Donc, je pense pas que ça soit essentiel dans son jeu. Ça dépend aussi des joueurs qui sont aux côtés de lui. Si les deux autres milieux de terrain ne marquent pas de but, par exemple, là, c'est un souci.
Bon, après, le PSG joue souvent, quand tout le monde est là, avec Neymar, Di Maria, Cavani.
Il y a du monde pour marquer.
Mbappé, a priori, le boulot de buteur, il est réparti sur 4 joueurs.
C'est pour ça que c'est pas un problème encore en soi avec lui au PSG.
C'est parce qu'il n'a pas besoin, c'est pas un problème. Ouais. Mais si lui, Verratti, il joue dans une autre équipe, il marque pas de but, il y a des fois que le numéro 8, comment ça s'appelle, de Lyon? Lui il marque. Ouais, lui, souvent il marque. Ouais. Il est dans le même registre.
Ndombele marque un peu moins.
Il est dans le même registre que Verratti.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Alors qui a marqué hier soir aussi? Eh bien c'est Kylian Mbappé, il a marqué sur pénalty. Mais en fait, hier soir, faut faire le film, il a tiré 3 fois un pénalty pour en inscrire qu'un.
Alors deux fois Non mais c'est vrai, vous avez raison, il a tiré 3 fois un pénalty, mais il y en a eu 2 sifflés, un à retirer. Qu'il avait d'abord inscrit, le deuxième il a changé de côté et Tata
Roussanou.
J'attendais qu'Eric on avait prévu le numéro que je débute voilà, et tu finisses le nom, mais tiens pas. Voilà. Et donc il a arrêté sa deuxième tentative sur un penalty, et il y a eu un deuxième penalty sifflé. Cette fois-ci, il a choisi le premier côté du premier penalty qu'il avait tiré, c'est-à-dire sur la droite de Tata
Roussanou.
Voilà, et ça a marché puisque il l'a inscrit.
Très bon duo hein, dans Radio Foot aujourd'hui. Mais Dominique, c'est pas ça, son truc. On a l'impression quand même les pénalties.
Il a pas encore.
Peut-être qu'il est pas dans hiérarchie, c'est ça.
C'est Neymar d'habitude qui les tire. Ensuite Cavani.
Il est souvent pas là, Neymar.
Donc il est le troisième tireur. Mm-hmm. Les deux premiers sont blessés. Je me souviens que Griezmann en a raté des très importants. Qu'il a changé. Il a dit qu'il avait changé sa manière de tirer un petit peu pendant l'Euro 2016. Il avait marqué contre Neuer en demi-finale de l'Euro. Et depuis, ça va mieux avec l'Atlético. Et donc, voilà, Kylian, il ne sait pas encore à quel moment, je pense, il faut arrêter sa course. Vous savez que les tireurs ont le droit de ralentir leur course, pas de s'arrêter, mais de ralentir. Ce qui fait que le gardien, à ce moment-là, choisit un peu un côté et que, en général, le tireur choisit l'autre.
Tu sais une chose, c'est que lui, il a un handicap. Mbappé. Quand il se présente tête à tête avec le gardien, s'il a le temps de réfléchir, il ne marque pas. Lui, quand il est instantané, là, il marque. Regarde le but qu'il a marqué l'autre jour, il a contrôlé, il a piqué, il a frappé tout de suite. Il a vu la place. Mais si lui, il aurait eu le temps de réfléchir, et c'est son problème, c'est incroyable.
Donc, il n'est pas fait pour les pénalties.
C'est un joueur d'instinct.
Pour les face-à-face,
oui, c'est un joueur d'instinct.
Les face-à-face, il a du mal.
Les face-à-face, il a du mal. Quand il part tout seul, des fois, il se présente peut-être. Regarde, contre Manchester United. Mm-hmm. Il a glissé, il rate la frappe.
Parce qu'il pense à ce qu'il va faire.
Mais c'est là le plus facile. Tête à tête avec le gardien, c'est extraordinaire.
Pourquoi? Il faut le regarder dans les yeux.
Il faut qu'il se fasse des soucis, le gardien. C'est pas moi qui dois se faire des soucis. Moi, j'ai le ballon. C'est lui qui doit se faire des soucis. Mais le problème, c'est que quand même, pour Mbappé, c'est un souci pour lui.
Et pourquoi, Carlos? Et
je sais pas, parce qu'on a les qualités qu'il a. Lui, après, il se présente devant trois mecs et il dribble les trois. Chacun il a ses qualités, mais je pense que comme il a 20 ans, avec le temps, il va arriver devant le gardien.
On s'entraîne, c'est un exercice.
Il a 20 ans, jusqu'à 30 ans, il manque 10 ans. Les fois qu'il va se présenter devant un gardien, mais moi, c'est un conseil que j'ai pu lui donner, de le travailler à l'entraînement. Mm-hmm. Des parties de milieu terrain.
C'est un vrai, il faut travailler.
Il faut travailler comme les pénalties.
Heureusement qu'il a encore quelques défauts. Heureusement qu'il a encore quelques défauts. Parce qu'à 20 ans, et vu le nombre de buts qu'il met, s'il mettait tout,
On n'aurait plus rien à dire.
C'est-à-dire qu'il serait à quasiment à 100 buts par saison, ça deviendrait gênant.
Bah on va y venir.
C'est quand même plus compliqué de marquer un deuxième pénalty qu'il faut retirer, sachant qu'il a mis le premier, et qu'honnêtement, le premier, il n'est pas retiré. Les joueurs qui rentrent dans la surface, c'est surtout des Nantais.
On n'en parlera pas ici, mais monsieur Le Texier n'a pas fait son meilleur match de sa vie.
Mais il y a eu beaucoup de choses sur l'arbitrage cette semaine.
Il ne faut pas être trop sévère envers Mbappé concernant les pénaltys, car en fait, il est tout jeune dans la matière, dans cet exercice. Son premier pénalty marqué en championnat, le premier de sa carrière, c'était le 2 mars dernier contre Caen. En fait, il y avait toujours Neymar ou Cavani pour tirer les pénaltys. Et bon, il en avait transformé un au premier tour de la Coupe de France cette saison. Mais à part ça, c'est tout. Et c'est vrai qu'on se rappelle, ça a marqué à lui apparemment, son raté contre Marseille.
Ah oui,
c'est vrai. Et pour dire qu'il avait également tiré à gauche du gardien, comme hier face à Tata.
Roussanou. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut lui dire quand il rate un pénalty, il suit un cortège de grands joueurs qui ont tous raté. Voilà, Platini, Zidane, Zico, Socrates.
Moi, j'ai raté plein. J'ai frappé. C'était moi qui frappais les pénaltys depuis que j'avais 20 ans. Mais...
Alors justement, Carlos, justement, il a envie de marcher sur votre plate-bande, Mbappé, parce qu'on sait qu'il a une passion pour les records et pour les chiffres, il a ça en tête, et il a inscrit pour l'instant 7 buts en 7 matchs consécutifs, je précise, de championnat, hein, on va pas compter ce pénalty hier en Ligue, en Coupe de France, pardon. Vous, Carlos, c'est vous qui détenez encore le record. Ah bon, vous savez pas? C'est vrai?
À notre époque, on se foutait de ça. Mais vous parlez sérieusement?
Je sais pas, j'ai trouvé ça.
Mais c'est important.
Dans les archives.
Mais ça raconte le joueur magnifique que vous étiez, parce que les records, certes, on s'en fiche un petit peu, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous étiez à une période fantastique. C'est ça aussi que ça pose en termes statistiques le regard sur le joueur important que vous étiez. ça permet, si on parle, les gens disent
merci
oui, mais
beaucoup.
Mais moi je sais pas, Carlos Bianchi, je l'ai pas vu jouer. Bah on lui dit bah voilà, par exemple, il a fait ça. Et alors Annie, elle va le redire. Et, ça, et là, là la personne dit ah oui, quand même, ah oui, effectivement.
Et nous, on est heureux en plus que vous soyez dans Radio Foot.
Il y a toujours là quelque chose. Mais
bah, ils sont faits pour être battus, les records, Carlos.
40 ans, ils sont mis.
Oui, mais Carlos, justement, c'était donc vous étiez exceptionnel pour que personne. Bon, et on est très heureux de vous avoir dans Radio Foot.
Merci beaucoup Annie, moi ça m'a fait un plaisir énorme, Tata. Ça va, Tata?
Tata Martino. Ah bon, non, c'est pas ça.
Alors, Carlos, vous aviez donc, eh bien, vous avez toujours ce record de 8 buts en 8 matchs consécutifs.
Quelle année c'était? 77, 78?
Quand vous étiez au Paris Saint-Germain.
Oui, c'était la première saison.
On Mbappé, donc, va peut-être vous égaler ce week-end. Il y a un match.
Ça peut être celui du titre, Annie.
Voilà.
Si Lille peut-être, ne gagne pas et que Paris gagne contre Strasbourg.
Voilà. Ça sera contre
Strasbourg. Il y aura un pénalty. Pour Paris, tu rigoles. C'est un pénalty pour Paris, c'est pas marrant.
Mais Carlos,
Cavani et Neymar ne seront pas là. Donc,
non. Voilà, Carlos, est-ce que ça vous attriste qu'on rate Alors,
ma question. Non.
Non. Mais est-ce que vous êtes heureux, par exemple, que ce soit Mbappé?
Mais que ce soit Mbappé, que ce soit n'importe lequel, les records, ils ont été faits
pour être battu.
Alors,
comme vous dites, ça fait 40 ans. Bon, mais c'est un digne successeur, Mbappé, alors
Il est plus fort que moi. En tout cas, il est plus fort que moi.
Il est plus rapide, c'est tout ce qu'on peut dire.
Il était plus rapide, ouais.
En tout cas, au nombre de buts, il est absolument incroyable. Apparemment, ce qui est calculé, c'est que depuis le début de l'année, il est dans les temps de Messi. Il a marqué 17 buts en 18 matchs. Il n'y a que Messi qui fait mieux avec 21 buts.
Il est deuxième au soulier d'or, qui est la compétition européenne du meilleur buteur. Mais c'est pas mal d'être doublé par Messi, quoi.
En
général, quand Kylian Mbappé fait quelque chose, soit il est le premier à l'établir, soit il y a ou Pelé ou Messi qui l'ont fait avant lui.
Au Cristiano.
C'est pas mal.
Donc là, effectivement, il est deuxième, il est à égalité avec Lewandowski et il a 33 buts pour l'instant sur l'ensemble des compétitions de cette saison. Et Messi en a quand même 9 de plus. Donc, bon, pour le soulier d'or, c'est pas
Messi
encore
Messi tire les pénaltys
fait.
Tout le temps.
5 pénaltys contre
3.
Ouais, non, 5 passes décisives.
Oublie pas que Messi marque des coups francs.
Comme des pénaltys.
T'as pas vu les coups francs qu'il a mis?
On l'a vu.
T'as vu le coup franc qu'il a mis? Le gardien, il était là, il a frappé le poteau, il a rentré.
En tout cas, Carlos, pour que Mbappé ait une belle carrière, une grande carrière, qu'il devienne le meilleur du monde, la question a été posée à Pelé. On sait qu'ils se sont rencontrés cette année en marge d'un événement de marketing. Et Pelé a en quelque sorte, lui qui a déjà adoubé Mbappé, on connaît les messages échangés sur les réseaux sociaux, eh bien, il lui a donné un conseil.
Vous savez, chez lui, le football, c'est inné. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Il doit surtout espérer avoir de la chance avec les blessures, ne pas avoir de graves blessures pour toujours garder sa condition physique parfaite. Le football d'aujourd'hui est plus physique que technique, selon moi. Il sera toujours marqué de près pendant les matchs, surveillé, donc il va falloir qu'il fasse attention à son corps.
C'est le secret, Carlos, de savoir maîtriser son corps, de le connaître parfaitement. On connaît l'exemple de Cristiano Ronaldo, on connaît celui de Messi, qui sont allés très loin en ne s'illustrant pas trop en dehors des terrains, ou si ce n'est pour justement
se préserver.
Il faut
avoir la chance de ne pas se blesser. Il faut avoir la chance.
C'est de la chance.
Est-ce que c'est de la chance?
Oui, c'est la chance. Je me suis cassé la jambe contre Barcelone au Parc des Princes. On était promis avec le Stade de Reims avec 4 points d'avance. J'avais 4 buts d'avance dans le championnat. Le mec, il s'est jeté sur moi, il croyait que je jouais au rugby, il m'a cassé la jambe en 3 morceaux, tibia péroné. C'est la chance. Je n'ai pas eu la chance à ce moment-là. Pelé, il a eu la chance, il n'a jamais été blessé gravement.
Mais il faisait
Messi,
moins de matchs par an.
Non plus, aussi. Ronaldo non plus. Maradona, il était cassé la cheville. Ouais. Il en opérait Garay Cochea. Oui, alors, il faut avoir la chance de ne pas se blesser. Regarde Neymar.
Ben oui.
Deuxième année consécutive, il a des pépins.
C'est ce qui peut empêcher.
Est-ce qu'il n'y a pas l'hygiène de vie aussi, à côté du
terrain? L'hygiène de vie, c'est sûr que ça compte beaucoup. Mais une blessure, j'avais une hygiène de vie extraordinaire.
Oui, non, pour votre cas, c'est vrai que c'est une blessure malheureuse.
Je te dis la vérité, l'hygiène de vie, c'est très important pour un claquage, les adducteurs. Mais après, pour les fractures graves comme celle de Neymar, c'est la chance. T'as vu comment il était blessé, Neymar?
Ouais, mais
c'est bêtement, il est blessé.
On a l'impression que ses rechutes, ou du moins ses complications, elles viennent parfois de son hygiène de vie, où il se...
Ça se peut.
On le voit, par exemple, aujourd'hui, avec Benjamin Mendy à Manchester City, qui a encore été épinglé par son entraîneur Pep Guardiola. Il est absent depuis le mois de novembre. Il est censé revenir, et à chaque fois, à chaque conférence de presse, on lui pose la question. À chaque fois, il dit, non. Et puis, en fait, deux jours avant, on le voit en boîte de nuit, jusqu'à 3h du matin, en train de danser.
Et De Bruyne, il est souvent blessé. Est-ce que c'est aussi pour une question d'hygiène de vie? Peut-être pas.
C'est la première fois qu'il a une grosse blessure, là.
Ça dépend des joueurs. Aussi, donc Ronaldo, le Brésilien, le vrai, l'attaquant, qui s'est quand même bien blessé au genou deux fois, c'est plutôt pas de chance, comme dit Carlos, quoi. Après, moi, je suis pas complètement d'accord avec la déclaration de Pelé. Pour moi, Messi, qui est le meilleur joueur du monde, prouve que tout n'est pas que physique aujourd'hui sur Terre, dans le monde du football. Une technique au-dessus de la moyenne, parce que moi je pense que Messi, sa différence, il l'a fait par sa technique, par sa vision du jeu, plus que par son physique. Il me semble que Messi n'est pas un monstre physique, mais après, il a des accélérations. Il a 10-15 accélérations par match qui sont extrêmement violentes et qui déstabilisent l'adversaire. Mais
Dominique,
c'est son
drift, mais si
c'est
son crochet. Malheureusement, si vous êtes souvent blessé, vous ne pouvez pas faire étaler votre science tactique.
Mais je ne sais pas s'il parlait que de la blessure ou s'il disait que le football était plus physique, athlétique que technique. Il me semble qu'il disait aussi ça.
Le danger, peut-être, pour les attaquants.
Cristiano Ronaldo, qui est un monstre physique, à 34 ans, ça reste un athlète, c'est un vrai athlète. Il fait son gainage, c'est 3000 abdos par mois, par jour, je sais plus, par heure. mais le meilleur joueur du monde, Messi, nous prouve quand même qu'une technique au-dessus peut permettre de survivre dans ce monde.
Mais il a un physique privilégié, Messi. Parce que je ne crois pas qu'il travaille beaucoup physiquement, lui. C'est tout naturel. Alors, c'était comme l'époque de Pelé. Pelé, c'était un mec naturel.
Carlos,
mais il y a des exceptions. Mais Ronaldo, s'il fait la même vie, ou le même travail que Messi, ou le même travail que Pelé, peut-être qu'il n'aurait pas Ronaldo. Parce que lui, il a besoin d'être bien physiquement.
Mais ça me fait penser à George Best, qui était célèbre à Manchester. C'était naturel, effectivement. Il pouvait faire la brinque jusqu'à 6h du matin. Il venait le matin pour jouer le match, et puis il était bon. C'est notre époque.
Carlos, est-ce que le fait de jouer autant de matchs les met plus souvent en danger, et donc hypothèque aussi ses carrières exceptionnelles?
Non.
Non.
Messi, il joue presque tous les jours. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est Messi, non?
Il a 31.
Par rapport à ses débuts en 2006, Messi, il y a encore plus de matchs.
Quand je le voyais, le deuxième but qui marque et pas le dernier match, avant, à Valladolid, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais pas où ils sont joués. Bon. Lui qui donne la balle du milieu terrain à son coéquipier. Et il commence à trottiner, et à 30 mètres du but, quand ils ont repassé le but, il a accéléré. Le mec, il était à côté de lui, il a resté arrêté. Ouais. C'était incroyable l'accélération qu'il a fait, Messi.
Bien sûr.
Mais je dis, c'est un mec, il a 31 piges. Et ça fait 3 jours qu'il a joué, il va jouer dans 3 jours, il va jouer...
Mais c'est un joueur qui a des énormes temps morts dans un match. On voit souvent marcher, oublier sur un côté, il marche souvent.
Il défend pas.
Il défend très
Sauf
peu.
Sauf contre Lyon au Camp Nou. Là, il défendait, il était partout. Ouais. Mais c'est rare.
Voilà.
C'est vrai.
Ah, il fallait se qualifier.
Neymar sera-t-il là pour la finale de la Coupe de France face à Rennes?
Il est prévu qu'on le revoie sur un terrain de football contre Monaco. Monaco, c'est dans 2 journées de championnat, je crois. Deux ou trois, je ne sais plus. Il y a Strasbourg, et il doit avoir un match à l'extérieur, et Monaco après la réception.
33.
Donc on va dire dans 3 journées. Donc s'il revient peut-être 20 minutes contre Monaco, on peut... peut-être envisager effectivement au Stade de France pour avoir l'état de la pelouse. Vous savez que tout ça rend en ligne de compte. L'adversité, Rennes passe pas pour déboucher. Donc Rennes, c'est des footballeurs. Donc voilà.
Y a Ben Arfa,
parce qu'il y a une
d'ailleurs.
Copa América à jouer, donc il faut le remettre en selle.
Ah, je crois qu'il a pas oublié, Neymar, la Copa América. Une pensée en tout cas pour Pelé, le roi Pelé, qui est venu à Paris ces jours-ci et qui est toujours hospitalisé, selon les informations des Brésiliens de RFI, de El Sur Amalio. Il est toujours à l'hôpital américain. Il devait partir aux États-Unis hier soir, mais avec cela, eh bien, le voyage a été repoussé.
La mejor liga del mundo.
Leo Messi encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Les matchs dans le stade Mestalla de Valence sont toujours difficiles en Espagne, même pour des équipes, dites grandes équipes. Et hier soir, c'est le Real Madrid que les joueurs de Valence ont battu par 2-1. Une source de motivation pour cette équipe de Valence, donc, qui est cinquième à l'issue de la 30e journée et qui voudrait bien, évidemment, terminer quatrième. Pourquoi ? Eh bien, pour disputer l'année prochaine la Ligue des Champions. En tout cas, les Molengues, eux, se qualifieront. Peut-être, sans doute, sûrement, mais la deuxième place semble s'éloigner à nouveau hier pour la première fois depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc. Les joueurs du Real ont perdu une défaite en 4 matchs. Est-ce que c'est inquiétant ou anecdotique selon vous
Annie, Annie, on sait que il y a beaucoup de problèmes au Real depuis plusieurs années, que il fallait sanctionner Solari par rapport à l'élimination en Ligue des Champions et au Classico perdu contre Barcelone. On sait bien que l'entraîneur ne peut pas faire de miracle. Il est surtout là, Zinedine,
pour préparer 4 matchs, une défaite,
pour préparer la saison prochaine, pour être la signature du Real, pour que des joueurs aient envie de venir, parce que Zidane attire du monde. Mbappé peut se demander s'il faut pas être entraîné par Zidane, d'autres joueurs, Eden Hazard, l'attraction Zidane. Zidane plus Real Madrid, c'est un beau combo qui donne envie aux joueurs de venir. Donc il est là aussi pour dire à l'Europe, venez nous rejoindre la saison prochaine.
Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a évoqué hier soir. On va l'écouter, Zinedine Zidane.
La verdad es que es un momento complicado porque es una temporada complicada, pero bueno, ahora
c'est un moment compliqué, c'est une saison compliquée. Nous nous éloignons un peu plus aujourd'hui. Nous voulions obtenir le maximum de points pour finir le plus haut possible à la fin de la saison. Mais avec cette défaite, c'est vraiment compliqué. Je suis avec mes joueurs, je suis derrière eux. Et ce qu'ils vont faire, c'est se battre jusqu'à la fin. C'est compliqué parce que nous allons avoir un mois pendant lequel nous allons devoir parler de certaines choses. Nous allons essayer de bien terminer et de bien préparer la saison prochaine.
Eric, cette équipe, effectivement, on sait qu'elle a eu une saison en dents de scie, et peut-être que ça continue un peu.
C'est difficile de situer véritablement le niveau de ce Real Madrid version Zinedine Zidane qui est arrivé le 11 mars dernier. Bon, c'est assez frais. Alors, vous le disiez, il y avait eu 3 matchs précédemment, 3 victoires, mais des victoires, bon, face à qui ? Face à Valladolid, d'accord, 4-1. Valladolid, 16e du classement. Contre le Celta Vigo, 2-0, 18e position pour le Celta. Et dernièrement, contre Huesca, 3-2, Huesca qui est le dernier. Bon. Là, ils perdent contre un club un peu mieux classé, Valence le 5e, qui effectivement en veut terriblement. Il y a un gros enjeu pour Valence en cette fin de saison. Alors que pour le Real, bon, la qualif pour la Ligue des Champions quasiment acquise et il y a quasiment une autoroute jusqu'à la fin de la Liga, puisque sur leur calendrier, ils n'auront qu'un gros match véritablement à disputer. Ce sera à Getafe qui est actuellement 4e, l'heure suivant immédiat, mais à 10 longueurs quand même, ce sera le 24 avril. Donc on peut penser effectivement que Zidane prépare la prochaine saison. Après, est-ce que à force de préparer à ce point-là, ils vont pas complètement un peu s'écrouler, se démobiliser au point de
rater les 4 premières places.
C'est clair qu'ils préparent déjà la saison prochaine, ouais. Et je pense même que la deuxième place c'est même pas une priorité.
Elle est un peu loin d'ailleurs.
Ça ressemble surtout à un grand ménage et une grande lessive qui se prépare, où il est en train de tester des joueurs. Le match contre Huesca qui était assez significatif, où certes il fait jouer son fils, mais il fait surtout tourner en mettant beaucoup de jeunes. Il a fait jouer le petit Llorente au milieu de terrain, il fait jouer le petit Diaz, un ancien d'arrivée de Manchester City, sur le côté gauche. Il teste les joueurs, on a l'impression qu'il est en train de voir, montrez-moi si vous méritez de porter ce maillot et si vous voulez être là la saison prochaine. Il fait une énorme revue d'effectifs, je trouve, et je pense que cet été, il va commencer à écarter ceux qui sont pas aptes ou qui sont pas prêts à se mouiller pour ce maillot. Dans le contenu des matchs, c'est quand même très décevant. Mais il faut se souvenir que dans le contenu des matchs de Zidane, quand il gagnait la Ligue des Champions en championnat, c'était pareil, hein. C'était très décevant dans le jeu. Et il y avait des sifflets du public de Bernabéu qui montaient très rapidement sur ces contenus. Donc pour moi, il n'y a pas de baguette magique, Zidane. Ça va changer évidemment cet été avec toutes les arrivées dont on parle. Eden Hazard qui est quasiment faite. On parle de Pogba, on en parle d'autres.
Malgré le fait que Chelsea ne puisse pas recruter ?
Oui, parce que Hazard n'a pas prolongé en fait. Donc il va lui rester 1 an de contrat. Donc soit ils prennent le risque de le garder 1 an de plus, il va partir libre. Soit ils le vendent là en laissant faire une plus-value. Donc
ils vont le vendre.
Oui, oui.
Carlos, le style de jeu de Zidane dans le Real version fin de saison, c'est...
La question, c'est qui est-ce qu'ils vont amener ? Parce que là, il y a Lucas, Asensio, sont des bons joueurs, mais
de complément.
Mais alors, ils jouent et on se rend compte qu'ils ne sont pas des grands joueurs.
À la fin, ils vont tenir la troisième place ?
À la fin, Real Madrid, c'est comme Barcelone, ils ne sortent jamais les grands joueurs. Le Barcelone, ça fait plus de 15 ans qu'il sort pas Xavi, Iniesta, et puis c'est fini. Et Real Madrid, c'est pareil. Ils sort pas des grands joueurs. Ils amènent des jeunes, mais à la fin, quand arrive le moment de savoir s'ils sont là pour jouer au Real Madrid, ils jouent pas. Alors, ils vont être obligés d'acheter, mais qui vont acheter?
Apparemment, et, ils ont beaucoup d'argent pour acheter. Hein.
Et oui, ils ont beaucoup d'argent, mais il faut savoir si on le dépense bien. Bayern de Munich, il a dit, je le racontais l'autre jour, il a dit, nous avons 220 millions pour acheter des joueurs. Ils ont dépensé 80 et en arrière. 80 millions d'euros.
C'est la clause.
Et en arrière.
Il est bon.
Ils ont oui, mais c'est pas la question. J'ai plus le dépenser. Non, mais je dis pas ça. En arrière, ça m'a coûté 30
non,
euros.
Non, mais je pense qu'il est plus axial, Hernandez, visiblement. Mais Van Dijk, par exemple, à Liverpool, il a coûté 75 millions d'euros.
Oui, mais dit combien
il a changé,
ça a coûté.
Il a changé
10 de plus, hein, au moins.
Oui, mais en arrière central, c'est différent en arrière elle. Hein.
Mais je pense qu'il va jouer en arrière... central, hein, Hernandez, Lucas.
Tu le vois, patron?
Alors parlons de Messi, ouais. Puisque le Real devrait se qualifier pour la Ligue des Champions. Messi, lui, il avait contribué, vous venez de le rappeler, Carlos, avec ce coup franc à éviter une défaite du Barça à Villarreal. Lionel Messi, qui a fait parler de lui en Argentine ces jours-ci, parce qu'il a parlé à une radio de Buenos Aires, Eric, à FM Palermo.
Il y a beaucoup de radios
mon quartier.
En Argentine.
Et oui, voilà, le quartier, mais vous n'étiez pas là-bas pour l'écouter.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Et alors, justement, sa parole est très rare, il n'avait pas parlé depuis le fameux huitième de finale face à la France, en Russie, bien sûr, à la Coupe du Monde. Et il a répondu, sur cette radio aux critiques, on va dire, hein, c'est le mot les critiques qui surgissent en Argentine, et notamment renforcées par cette défaite il y a 10 jours face au Venezuela, ça se joue à Madrid sur le score de 3-1. Mais si en fait ne comprend pas bien les reproches qui le visent personnellement.
Me taper dessus, me critiquer, inventer des choses à mon sujet, que je vienne en sélection ou pas, c'est incessant et très usant. On a souvent affirmé que c'est moi qui choisissais les sélectionneurs ou qui faisais l'équipe en choisissant mes amis, et que c'était même moi qui faisais la loi au sein de la Fédération Argentine. Mais les Higuain, Mascherano, Agüero, Di Maria étaient à leur moment les meilleurs du monde. Depuis 10 ans, on dévalorise les résultats de notre sélection. C'est vrai que nous n'avons rien gagné, mais nous avons quand même joué 3 finales, dont une Coupe du Monde. On nous a critiqués, et ça m'a vraiment blessé. Le dernier échec en Russie, notamment, a été très dur à vivre. J'ai essayé de m'isoler avec ma famille pour oublier, faire le deuil, de laisser le temps passer et faire retomber les choses. Je me suis donc éloigné de la sélection, car le coup a vraiment été très dur.
Ça a été très dur, dit-il, Eric. Il a beaucoup regretté, évidemment, cette élimination, et il dit qu'il a eu du mal à s'en remettre.
Il a arrêté la sélection à ce moment-là. Il a dit, comme il le dit dans l'interview, là, je prends mes distances, j'essaye de digérer un peu ça, parce que c'est plusieurs coups de suite, parce que Messi, évidemment, il a 31 ans maintenant, on prédisait à ses débuts, il avait gagné 1, 2, 3 Coupes du Monde, mais finalement, il a toujours rien gagné avec la sélection argentine, si ce n'est les Jeux Olympiques en 2008 et une Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005. Depuis, rien. Effectivement, ça fait un petit peu tâche. C'est ce qui manque véritablement à son palmarès, qu'il réussisse en sélection et d'atteindre, il y a le fameux débat Messi ou Maradona, mais enfin, bon, on peut s'amuser tant qu'on veut à ce sujet-là, mais Maradona a quand même gagné une Coupe du Monde, et tant qu'il ne gagnera pas une Coupe du Monde, je crois qu'aux yeux des Argentins, il y aura un petit problème quand même.
Ouais, c'est ça qu'on lui reproche là-bas, Carlos.
Et on va te reprocher toujours quelque chose.
Oui, d'accord,
mais on ne peut pas dire autre chose.
Est-ce qu'il est aimé, adoré en Argentine ou pas, Messi?
Adoré, je ne sais pas s'il est adoré, mais il est reconnu, c'est sûr. Mais il est critiqué aussi parce que, comme lui et Eric viennent de dire, que si tu n'es pas champion, on dirait qu'il est mauvais. Platini n'a pas été champion du monde. Cruyff n'a pas été champion du monde. Alors, il faut être champion du monde pour être reconnu. Lui, ça fait 12 ans qu'il a gagné 5 Coupes d'Europe, 5 Ballons d'Or. Il a fini meilleur buteur, je ne sais pas combien de fois, en Espagne. Il a gagné le soulier d'or.
Plusieurs fois.
Mais on a toujours quelque chose à lui reprocher. Pour moi, c'est le plus grand joueur que j'ai vu, mais... Il faut le voir aussi dans un autre contexte, s'il aurait joué, ça fait 30 ans à l'époque de Maradona ou 50 ans à l'époque de Pelé. S'il aurait été si bon. Aujourd'hui, les règles, ils sont pour protéger les attaquants. Et lui, il profite, c'est un... C'est un grand joueur.
Alors, on n'oublie pas que la sélection en Argentine, c'est énorme, évidemment. Hein, à part la rivalité Boca-River, on se passionne surtout pour la sélection argentine. Oui. Toute l'Argentine, durant un mondial, est scotché devant la télé et suit ça de manière passionnelle.
En plus, tu vois, en Russie, il y avait 10 fois plus de supporters argentins que français.
Voilà. Mais est-ce qu'on ne le compare pas aussi toujours à Maradona qui avait porté l'Argentine?
Il
veut
toujours le comparer avec Maradona.
Voilà. Et Maradona a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine, mais s'il n'a pas fait, est-ce que c'est pas ça qu'on lui reproche?
Oui, mais c'est pas tout seul Maradona qui l'a fait gagner.
Bien sûr.
Maradona, il a fait un malheur, mais je dis, c'est pas pour cette raison-là que tu vas critiquer Messi.
Je suis d'accord.
On va l'écouter, Messi, parce que il prend de temps à autre un peu le temps de réfléchir loin de la sélection, mais il y revient toujours.
Quand j'ai décidé de revenir en sélection, la majorité de mon entourage était contre. La famille, les amis, beaucoup de gens me disaient « Ne reviens pas, pourquoi revenir? Pour souffrir? Pour qu'il t'assassine ?» Même mon fils de 6 ans, qui comprend très bien, m'a demandé « Pourquoi tu retournes jouer avec l'Argentine? Pourquoi ils ne t'aiment pas? Pourquoi ils te descendent là-bas, papa ?» C'est des choses dures à vivre, mais ce n'est pas grave, car moi je veux être en sélection, je veux continuer à essayer. Un jour, notre moment viendra et on gagnera, ou peut-être pas.
Il a raison, Carlos, de
dire. Il a raison. Un jour, ça peut arriver. Mais si lui, il a le. Parce que là, quand on entend parler, à lui, ça lui fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a à gagner encore plus, lui? Bon, on était champion du monde de sélection. Mais ça ne va pas lui changer beaucoup la vie, à lui.
Même quand même, ça doit lui tenir à cœur, quand même, avoir un titre mondial. C'est autre chose, à mon avis, ça vous change un peu
la vie.
Mais
avec le temps. Tout va, tout s'en va. Tiens, la place. J'ai perdu le soulier d'or contre un Chypriote, Kayafas.
Ouais.
Alors, je vais me faire des soucis. Avec le temps, tu oublies tout. Le plus important, c'est que lui, il a eu du plaisir. Et quand tout l'entend parler, lui, il a du plaisir d'aller à la sélection argentine.
Il a du plaisir aussi d'évoquer les meilleurs joueurs du monde, du moment en tout cas, les meilleurs qu'il croise sur les terrains ou qu'il voit et qu'il considère. Écoutons-le d'ailleurs.
Je crois.
On lui a posé précisément la question, quel est, mis à part vous, vous ne mettez pas dans la liste, le meilleur joueur du monde?
Le top 5.
Voilà sa réponse.
Et c'est intéressant.
C'est difficile d'en choisir un. Il y a des excellents joueurs. Neymar, Mbappé, Hazard, Suarez, Kun Agüero, j'en oublie certainement. Cristiano aussi, bien sûr, je le mets avec moi. C'était bien de l'avoir en Espagne, même s'il nous a fait souffrir et qu'il nous énervait beaucoup quand il soulevait des trophées avec le Real. C'était bien pour tout ce qu'il représente, pour le prestige qu'il donnait à la Liga. Cela aurait été beau qu'il soit encore avec nous.
Grands joueurs se reconnaissent, Dominique.
C'est sympa, parce que je suis pas sûr que Cristiano Ronaldo aurait fait la même passe décisive à Messi.
Après, il faut dire que quand il commence sa liste, il oublie, il parle pas de Ronaldo, et les journalistes le relancent, et Ronaldo, ah oui, mais effectivement, il y a Ronaldo.
Mais ce qui est sympa, c'est que les deux premiers qui lui viennent à l'esprit jouent en Ligue 1, quand même. Neymar et Mbappé.
Il dit aussi une chose, il dit que Ronaldo et lui, ils sont là, et que les autres sont un peu en dessous.
Ah oui.
C'est ça aussi.
Si tu peux pas
comprendre.
Non, mais c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'il met Ronaldo vraiment à part avec lui, quand même.
Il dit d'une façon avec plein d'humour, quoi, en disant.
Moi, j'aime bien sa liste, hein. Kun Agüero, il y avait qui encore
Suarez, bien sûr.
Ou Mbappé, Neymar, il n'y a pas vraiment de déchets, quoi.
Ouais, ouais, Hazard.
Il n'a pas dit Choupo-Moti, ou. Voilà,
il ne connaît peut-être pas.
En tout cas, une question qu'on peut se poser. Cette question, c'est est-il Dieu pour autant? Joue-t-il comme un Dieu? Comme le veulent les questions et les commentaires. La question, a été récemment posée par un confrère espagnol de la chaîne Sexta de Madrid.
J'adore la musique derrière
au pape François.
Et oui, c'est pour ça.
Qui est argentin.
Qui est un grand fanatique de football. Et la question lui a été posée. Écoutez ce petit dialogue entre lui et le journaliste.
C'est un sacrilège de dire que.
Saint-Père, est-ce un sacrilège de dire que Lionel Messi est un dieu?
En théorie, c'est un sacrilège, vous ne pouvez pas le dire. Je n'y crois pas, et vous?
Oui, moi j'y crois, Saint-Père.
Les gens disent que c'est Dieu comme ils disent « je t'adore ». Ce sont des expressions du peuple. C'est un dieu avec la balle sur le terrain. Ce sont de simples expressions populaires.
Mais la façon dont il joue, Saint-Père...
Oui, oui, c'est vrai. C'est agréable de le voir jouer. Mais ce n'est pas Dieu.
Carlos,
Annie,
la traduction est parfaite,
je suis catholique, pratiquant, je suis allé lundi, mardi et mercredi à la messe, à 6h30 à Saint-Augustin. J'y vais tous les jours à la messe.
Et vous n'avez pas vu Messie.
Et Dieu, c'est Dieu. Messi, c'est Messi. Mais Dieu, Dieu, c'est Dieu.
Ce qui est amusant, c'est que les Argentins se comparent à Dieu, alors que pour les Brésiliens, on parle du roi Pelé.
Mais c'est venu comment?
C'est un pays beaucoup plus monarchique.
Juste, oui, ils ont eu un empereur, effectivement. Ils en ont eu deux,
ça
même.
Ça vient un petit peu, je reviens toujours à Maradona, mais El Diez, c'est le 10, et Dios, c'est le Dieu, donc ouais. Évidemment... C'est,
puis Maradona, il avait une main aussi. Qui
il avait la main de Dieu, effectivement, on l'appelait comme ça, mais effectivement, cette ressemblance entre les deux mots a fait que, évidemment, on est allé vers là.
Le bon Dieu, c'est celui qui décide si tout en va ou tout reste. Ah. Oublie pas ça.
En tout cas, c'était dans la traduction.
On a envie de rester, nous.
David Finzel et Thibaut Baduel qui se sont amusés à faire une traduction, hein, n'est-ce pas, senti de ce moment. Une dernière
ils sont
petite
deux comédiens.
Question, ouais, hein, n'est-ce
ils
pas.
Ils ont quelque chose.
Il y a des moments, il faut que dans Radio Foot, on laisse la place aux artistes. Carlos, juste une dernière question. En Argentine, c'était la fin du championnat, là.
Oui, Racing. Il y a eu le sac. Champion.
Racing.
Moi, je t'ai dit la vérité, je suis pas le championnat.
Non,
je ne suis pas.
Bon mince, alors.
Mais
c'est qui Racing?
L'ennemi, ma famille m'a dit Racing, il est champion.
Ouais. Et Boca, ils sont où?
Ils sont finis quatrième, je
quatrième,
crois.
Quatrième, hein.
Et River, non?
River cinquième derrière Boca.
Bah, oh là là, oui. Alors là, on ne va pas en parler parce que leur réveil va être très triste. Allez, on file en Angleterre.
We've spent years designing this new stadium. This club and this stadium is part of the fabric of this local community.
This stadium is going to make a massive, massive difference to the people of Tottenham.
Il est prêt, enfin, le stade de Tottenham qui aurait dû être livré en début de saison, hein, je me trompe pas, Bruno. Non. Après, il aurait dû être livré avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions au cas où l'équipe irait. L'équipe y est allée, mais elle n'avait toujours pas de stade. Et finalement, donc, ce stade a été inauguré hier à grand renfort d'ambiance, de feux d'artifice. L'enceinte était pleine, 62 000 places. 2000 de plus qu'à Arsenal, c'est un détail,
62
262,
pour être
précis. 2262 de plus.
2260 places.
Il les a comptés.
Non mais ça a été une bataille en fait entre les deux clubs. Hein. Parce que c'était d'avoir le stade le plus grand de club à Londres. Et ils ont agrandi vraiment exprès pour être juste au-dessus de l'Emirates.
C'est un concours de stade quoi.
Ouais. Bah, c'est comme ça.
Hein, combien les spectateurs sont alors?
62 262.
Ils sont plus que...
Plus qu'Arsenal, qui est 60 060 quelque chose.
Et c'est le deuxième...
C'est la rivalité.
Deuxième plus grand stade anglais pour un club, derrière Old Trafford, de 75 évidemment. 000 places. Ouais, ouais.
Alors, il y a évidemment ce qu'on retrouve maintenant dans un stade, dans une enceinte. Il y a une brasserie, il y a aussi un magasin, le magasin du club, hein, le plus grand d'Europe, paraît-il, 2000 mètres carrés. Et puis, il y a un mur blanc. Ce mur blanc, c'est pour faire écho au mur jaune, n'est-ce pas?
Oui.
Là, c'est 17 500 places, dit-on officiellement.
Ouais, c'est pas vraiment, c'est pas l'équivalent du stade de Dortmund quand même. Hein.
Mais c'est pour rassurer l'ambiance, parce que le mur jaune, c'est donc à Dortmund, le Borussia qui a ses fameux spectateurs qui sont debout, qui chantent et qui ont leur banderole pendant tout le match.
C'est pour faire plus ou moins ce qu'ils appellent les standing stands, c'est les tribunes derrière les buts où on se met debout. Mais c'est surtout... Moi, je trouve que le stade, en tout cas la partie basse du stade, rappelle beaucoup le White Hart Lane, pardon. Le stade, l'ancien stade sur lequel ils sont plus ou moins à cheval au niveau de la construction.
Ils ont tout rasé pour refaire
Ils ont commencé la construction en étant à cheval sur White Hart Lane, qui était cassé au niveau d'un angle. C'est-à-dire qu'on voyait les matchs à White Hart Lane et on voyait l'angle qui était percé. On voyait les débuts des constructions, donc c'était assez bizarre. White Hart Lane a été démoli il y a 22 mois. Et ils ont essayé de préserver un peu d'âme, c'est sur le même site. C'est toujours le problème quand on fait des nouveaux stades. On l'a vu avec l'Emirates qui a perdu totalement l'âme de Highbury, qui a quelques centaines de mètres. Et Tottenham a essayé en tout cas de préserver un tout petit peu d'âme. Et c'est donc moi j'y étais pas pour le premier match. C'était mes confrères anglais me disaient que c'était un vrai stade de foot. Ils ont gardé vraiment la proximité de la pelouse avec des tribunes proches, une supervision au niveau des tribunes. Et c'est ça vraiment une belle ambiance. C'est vraiment un outil magnifique qui a coûté très très cher, un milliard
d'euros,
de livres, donc un peu plus. 500 oui. euros. Énormément de retard à cause du système de sécurité, c'est ça qui a retardé. Mais vous parliez des boutiques, etc. Il y a une boutique, ce qu'ils appellent la Cheese Room, où on peut se délecter de fromage un peu
français.
Dans
le
style français et anglais, parce qu'il y a beaucoup en Angleterre aussi. Mais c'est voilà, c'est un produit pour faire beaucoup d'argent pour apporter dans les caisses du club, parce que.
Alors justement,
parce que ça coûte.
Restons dans la tonalité. L'habit fait-il le moine? Prenons, on parlait d'Arsenal. Arsenal, ils avaient choisi pendant un moment de ne pas beaucoup dépenser pour mettre tout l'argent dans le stade. Et on peut penser à Lyon aussi, hein, qui a eu un peu cette même politique. Mais depuis, alors, vous parlez de l'ambiance déjà, c'est un sans doute des points négatifs. Mais en plus, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont surtout plus été champions.
1961.
Voilà. Alors que hier, Pochettino a dit.
Parler d'Arsenal, hein.
Oui, ça. D'Arsenal.
Ah, pardon, je croyais qu'on parlait de Tottenham.
Et de l'Emirates, la comparaison avec
l'Emirates,
qui a été érigé en 2006.
Ouais. Voilà, plus donc de titres de champion depuis pour Arsenal. Et là, hier, Pochettino dit, maintenant, l'entraîneur des Spurs dit, maintenant nous devons soulever des trophées, c'est le début d'une nouvelle ère.
Oui, alors le problème, c'est qu'on le reproche depuis quelques années déjà, et avant même l'arrivée de ce nouveau stade, que ce club et cet entraîneur ne gagnaient pas de trophée, que le dernier trophée, c'est 2008, c'est une Coupe de la Ligue. Le dernier titre de champion, c'est 1961, donc c'est encore plus loin.
Il y en a eu deux dans l'histoire, 51-61.
Mais le problème, c'est que Tottenham ne faisait pas partie de ce qu'on appelle du Big Four, traditionnel Big Four, ce qui était déjà le cas d'Arsenal, qui avait déjà été champion. Tottenham, ils viennent de beaucoup plus loin. Ouais. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils terminent dans le Top Four, ce qui est déjà un exploit en soi. Et ce que réalise Pochettino avec le peu de moyens qu'il a, c'est juste extraordinaire. Cet été, par exemple, il n'a pas recruté un seul joueur. Et évidemment, il y a ce coût du stade et ce qui va peser évidemment sur le recrutement du club, mais différent d'Arsenal. Arsenal, ils avaient vraiment été plombés parce que l'emprunt était énorme, qu'ils avaient été un petit peu avant-gardistes dans les changements de stade et ça a pesé au moins jusqu'à 2010-2011 quasiment sur les finances du club. Ensuite, ça devait les libérer. Ils devaient, c'est ce que disait Arsène Wenger, ils allaient devenir un club très fort grâce au fair-play financier. Malheureusement, on l'a vu bien après que finalement c'était pas le cas et qu'Arsenal est rentré dans le rang malgré cet outil fantastique qui leur apporte énormément.
Dominique, on voit récemment on a vu le projet pour Santiago Bernabéu hein, qui doit aussi lui subir des transformations. On connaît un projet qui existe autour du Camp Nou ici vos Qatariens dont vous
San
suivez
Siro,
le quotidien.
San Siro également.
San Siro,
ouais,
exactement.
Se pose la question, ouais.
Alors
Juventus c'est voté même
avait déjà
pour
ouais pour faire un nouveau. Non, je crois oui que ça
non,
aurait été vraiment bien.
C'est un débat, il y a un débat.
Ouais. Et est-ce que c'est la clé pour pour être un grand club, d'avoir un grand et beau stade moderne?
La clé, c'est le budget billetterie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une économie de nouveaux supporters. Les supporters, il y a les supporters lambda qui sont plutôt les ultras, qui sont derrière les buts et qui veulent pas payer très cher parce qu'ils ont un pouvoir d'achat assez limité. Et vous avez
les fidèles.
Voilà, ce sont les fidèles, l'âme du club. Et vous avez en latéral tout un nouveau public de gens CSP+, qui ont un gros pouvoir d'achat en Angleterre, en France.
Les riches, quoi.
Les riches et qui, eux, peuvent payer des places, des loges, des places VIP très cher et ça constitue un budget pharaonique. Par exemple au Paris Saint-Germain
le
budget billetterie il est là les recettes billetterie pour une saison mais c'est exceptionnel je n'ai pas le chiffre en tête mais c'est incroyable donc effectivement que la rénovation des stades les rende plus attractifs plus familiaux d'attirer ce public qui aime venir avec ses amis ses familles dans un côté en sécurité. Il faut que l'acheminement au stade se passe bien dans les rues éclairées et qu'au stade il y a une sorte de qualité. Mais tout ça ne peut se faire que si d'abord vous avez une bonne équipe, un bon club, une âme. Faut pas commencer par construire le business et après chercher une équipe. Faut d'abord. Donc là, des clubs que vous avez cités, c'est des clubs historiques.
Qui ont déjà une histoire.
Voilà, donc ça c'est bien.
Carlos, en Argentine, on est aussi dans ce phénomène de modernisation des stades.
Il n'y a pas d'argent.
Même pas dans les grands clubs que
non,
sont
parce
Boca
que
et River. River,
il paraît qu'il voulait, il veut s'en aller du quartier où nous sommes,
ouais.
Où nous sommes, parce que bon, c'est un club omnisport. Il y a des tennis, il y a tout ce que vous voulez. Et ils veulent s'en aller. Boca, à un moment donné,
ils veulent aller en banlieue, j'imagine.
Un peu plus loin, mais pas trop loin.
Mm-hmm.
Et Boca aussi, mais Boca, à la fin, ils sont laissés tomber.
Ils voulaient rénover, donc.
Ils voulaient rénover les stades, mais vous savez, ce sont des stades qui sont tellement des années,
tellement
et les Argentins, ils s'accrochent au ancien stade, alors je ne sais pas si vous en arrivez à faire quelque chose.
Bon, ils gardent peut-être leur âme, s'ils ne gagnent pas.
Ça, il y a une âme, là, vraiment, là,
beaucoup d'argent, oui. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci,
merci
beaucoup.
Annie.
Merci, merci à vous. Laurent Salerno. Merci à Thibaut Baduel. Et merci aussi à David Finzel.
Ah oui.
On se retrouve demain pour le Café des Sports.